Pour ceux qui me connaissent et qui sont là depuis nombreuses années, ils savent que c'est quelques minutes face à vous sont probablement pour moi les plus difficiles de l'année. Chaque année, en introduction, j'essaie de savoir finalement qu'est-ce que nous faisons ici. Pourquoi on est là ? Et devant les rabbanim, et devant mon maître, je crois qu'il m'est interdit de dire d'autres choses que j'ai entendues de lui-même. Alors qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher dans les enregistrements ce que Dvar Torah, que vous connaissez bien, nous permet d'entendre, et j'essaye de piocher un ou deux petits sujets et de les réunir. J'ai écouté ce qui s'était dit en 2007. Et en 2007, le Rav Eman nous avait, entre autres, parlé du temps. Et ça, c'est une question qui existe toujours. Parce que les grands mathématiciens, les philosophes, ils se posent toujours la question du temps. Le temps qui passe. Est-ce qu'on attend de venir à une soirée ? Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Et là, dans cette conférence, ici, en ces lieux, le Rav Eman avait dit, entre autres, et d'avant, je lui demande de m'excuser si je trahis sa pensée. Le Rav Eman avait dit, « Barur she'amar ve'ose olam, ose bereshit. » Ose bereshit, c'est, tout le monde comprend que c'est la création. Le Rav Eman, il a donné ce jour-là un autre sens. Il a dit, « Ose bereshit, chaque fois qu'on le dit, on doit penser, Hachem, il a donné un début à chaque homme, à chacun d'entre nous. » Donc chacun d'entre nous, quand on dit cette fille-là, et pour ceux qui ne la disent pas, on devrait pouvoir penser tous les jours, tiens, Ose Bereshit, il m'a fait un début. Début à la vie, la naissance, début de la journée. Ce soir, c'est Ose Bereshit. C'est un début d'une nouvelle année pour les institutions Mekor Israël. Et puis, le Rav Eman continue en disant, mais le temps, ce n'est pas le temps qui passe. C'est que l'homme, il marche dans le temps. Il marche dans le temps, et à un moment, à tout moment, il doit se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, je suis différent ? Et ça, croyez-moi, en dehors de notre peuple et de notre éducation, je ne suis pas sûr que beaucoup le font. Donc, on doit se poser la question à chaque instant, est-ce qu'on est différent ? Est-ce qu'on a avancé entre le Bereshit, le début qu'on nous a donné, et la fin après 120 ans ? J'ai trouvé un début de réponse, en tout cas, une des réponses, dans une autre conférence de Rav Eman, où le Rav Eman dit « Il y a trois signes distinctifs chez les Bnei Israël. » On a trois signes. Ces trois signes sont « Charmanim » la pitié, « Baishanim » la honte, « Gomel Rassadim » on a de la bonté. Alors je raccourcis parce que ce que je vous donne, c'est des grains de sable dans un océan. La bonté, la pitié, c'est normal dans une vie, une société normale. Il faut vivre comme ça, sinon c'est impossible. Mais la honte, qu'est-ce que c'est la honte ? Et là, j'ai entendu une réponse que l'on peut avoir dans ces cassettes qui ont été diffusées, que nous rediffuserons de Dvar Torah. J'ai entendu une définition de Rav Eman, ou une description extraordinaire. La honte, c'est un sentiment. On a honte, quelque chose d'intérieur. Mais il traduit Rav Eman Baishanim non seulement par honte, mais par retenue. C'est-à-dire, la retenue, c'est un comportement. C'est-à-dire que nous, on a un Bereshit, on a un début, on a une fin. Et si on veut avoir un de ces signes distinctifs d'Ebnei Israël, ça ne suffit pas d'être bon, ça ne suffit pas d'avoir la pitié. Ça, tout le monde, à la limite, peut avoir. Nous, on doit avoir un sentiment de honte, c'est-à-dire qui se manifeste par la retenue. Et alors, on continue. Qu'est-ce que ça veut dire, honte retenue ? Et là, moi, ce que j'ai découvert, c'est une chose extraordinaire que je vous livre. Je dis, Rav Eman, excusez-moi encore si je dis des choses qui ne sont pas tout à fait ce que vous avez dit. Le Rav Eman, un juif, il a deux parties. Il a sa partie lui-même, son corps, son esprit, son génétique, tout ce que vous voulez. Et puis, il a Hachem, une partie du bon Dieu. Il a la Neshama qui est en permanence avec lui. Et avoir de la retenue, qu'est-ce que ça veut dire ? Et je me permets d'écouter bien parce que c'est tellement extraordinaire. L'idée d'avoir de la retenue, c'est de savoir qu'on est toujours deux. On a toujours notre associé avec nous, Hachem avec nous. Ça veut dire qu'un Bnei Israël, quand il marche, quand il avance, il doit dire attention, je ne suis jamais seul. J'ai un associé avec moi. Et cet associé, je n'ai pas le droit de le tromper. Par exemple, et je dis ça pour une boutade, avant d'acheter une Rolex et de choisir le modèle, il faut demander à son associé si ça fait partie de la retenue. Mais ça n'est qu'une boutade. Je me suis posé encore une question. Comment on fait pour arriver à avancer de Bereshit à la fin en cultivant cette retenue dont on se pose la question, est-ce qu'elle est génétique ou est-ce qu'elle peut s'acquérir? Et la réponse, elle est évidente, peut-être qu'elle est génétique, mais c'est sûr qu'on peut l'acquérir. Et comment on peut l'acquérir en étant ici ce soir? Je veux dire, c'est bizarre, on va dîner, on va passer 2 heures, 3 heures ensemble. Non, c'est pas ça. C'est qu'en étant ici ce soir, nous montrons activement que nous soutenons des institutions qui font quoi? Qui forment nos enfants à avoir de la retenue. 450-500 enfants formés maintenant tous les ans, qui forment, quand ils grandissent, les élèves de l'Yeshiva, qui forment les maîtres au Kollel. Et ça, c'est notre participation à ce signe distinctif qui assure la pérennité du peuple juif. Tous les ans, on se retrouve ainsi. Je vous dis quelques mots et je terminerai en un tout petit Dvar Torah lié à la paracha de la semaine. Vous avez tous reçu un livre qui sont les commentaires de la Sidra, de la paracha par le Rafetz Chaim. Alors, naturellement curieux, j'ai ouvert la page à la paracha que nous devons lire, Béchalar. Et j'ai pris le premier commentaire du Rafetz Chaim. Alors, je vous le lis en quelques mots. Sur la phrase « Ve'iye beshalar pharo et ha'am ve'lo necham elokim derer eretz pelishtim » Quand Pharaon renvoya le peuple, Dieu ne les dirigea pas par le chemin du pays des Philistins. Alors je vous dis ce que dit le Rafetz Chaim dans sa simplicité. Le Saint béni soit-il, il pouvait très bien éviter le désert et aller directement chez les Philistins. Dans la seconde solution d'aller à travers les Philistins et pas le désert était plus pratique. Elle permettait aux Hébreux de se procurer des provisions. Mais d'un autre côté, et c'est le Rafetz Chaim qui parle, c'est la traduction que vous avez, il courait un grave danger d'assimilation. Un grave danger d'assimilation. Dans le désert, il serait à l'abri de toutes les souillures et de l'idolâtrie. Mais il ne trouverait rien à manger sur cette terre aride et inculte. En définitive, le Saint béni soit-il jugea préférable de les conduire dans le désert, dans la pureté du désert, en les nourrissant miraculeusement avec la manne. Et je termine par une dernière phrase. En ces périodes de crise, en ces périodes où les parents se posent des questions sur l'avenir de leurs enfants, est-ce qu'on fait beaucoup d'études juives ou est-ce qu'on fait beaucoup d'études universitaires où les enfants se posent des questions? La réponse, dans la paracha, elle nous vient du Rafetz Chaim. C'est un désaveu formel de tous ceux qui abandonnent leur religion pour des raisons économiques. Car celui qui a nourri 600 000 hommes dans le désert pourra certainement accorder la subsistance aux personnes restant fidèles à la Torah. J'en ai terminé. Grâce à vous, on peut accomplir ce que dit le Rafetz Chaim, c'est-à-dire on peut nourrir et permettre l'éducation de tous ses enfants et la vie de l'Yeshiva. Je vous donne le programme de la soirée. J'ai parlé trop longtemps. Je donne la parole au Rav Lévi. Ensuite, vous mangerez, j'espère. Ensuite, monsieur, vous aurez la présentation d'un film sur une institution israélienne et on continuera après le programme. Bonne soirée.
C'est toujours une grande joie de pouvoir se retrouver une fois par an à l'occasion de ce gala. Inutile de vous dire combien nous vous remercions d'être parmi nous, ceux qui sont venus de près et de loin. Je voudrais remercier tout d'abord les Ravanim de la Yeshiva, Rav Abrami, Rav Schenker, Rav Yitzhak Levi, pour le travail qu'ils accomplissent tous les jours, ainsi que la direction de l'école, qui sache que c'est grâce à eux que nous poursuivons cet enseignement. Et nous sommes heureux ce soir de leur dire toute notre estime. Je remercie aussi le grand Rabbin Messas d'être venu parmi nous et lui souhaiter une refoua shelema. Au Dieu nouveau de Beseva, puisse longtemps venir parmi nous. Nous avons décidé cette année, comme il y a plusieurs années, au lieu d'offrir un lot pour tout le monde, de consacrer cette somme à une institution. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que nous avions fait de même avec les Hermitzion. Et souvent je reçois des coups de téléphone de gens qui sont en Eretz Israël ou qui étaient en Eretz Israël qui me disent « J'ai vu passer l'ambulance. » Et il est écrit dessus que c'était les dons de la soirée de telle et telle année. Et puis d'autres institutions l'une après l'autre. Il y avait cette institution pour les malades de la mucoviscidose. Chacun avait donné quelques euros pour pouvoir acheter des médicaments. Il y avait Mirpanim, les restaurants. Et ainsi de suite, jusqu'à une clinique, jusqu'à un endroit de soins dentaires à Bnei Brak. Et cette année, après plusieurs années, où nous avons pu vous offrir des choses de valeur, la plupart de ces choses de valeur, vous savez tous, qu'on les devait à notre ami, le peintre Kleinman, qui est ici parmi nous, et qu'on remercie encore, parce que ce soir encore, le tableau offert, c'est le sien. Ça n'est pas que la mitzvah, ce soit plus ou ce soit moins. Ce n'est pas que le tableau, ce soit plus ou ce soit moins. C'est qu'on est obligé d'avoir une vision des choses. La Torah, l'enseignement, l'étude, la propagation, la vie selon la Torah, ce n'est pas juste un choix de société ou une conduite. C'est tout à fait autre chose. Et je vais essayer d'expliquer ce à quoi je pense ce soir, dans la paracha que nous avons lue hier. Il est écrit une chose bizarre. Vamate asher ikitabo et ayor. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, tu vas le prendre. Et tu vas frapper le rocher, parce que l'Ibn Israël, au sortir de la mer Rouge, n'avait pas d'eau à boire dans le désert. Rashi nous dit, pourquoi le bâton, celui avec lequel on a frappé le Nil, avec lequel Moshe Rabbeinu a fait les plaies, pourquoi la Torah nous dit que ce bâton, il faut le prendre et frapper le rocher? Il nous dit Rashi, parce que les enfants d'Israël avaient tendance à regarder ce bâton avec effroi. C'est un bâton de malheur, un bâton qui apporte le malheur. Chaque fois que Moshe Rabbeinu a brandi ce bâton, chaque fois est arrivé quelque chose d'insupportable, de malheureux. Vous savez que la Torah, chaque mot, chaque lettre, c'est pour que nous ayons un enseignement pour toute la vie. C'est quelque chose de définitif. Qu'est-ce qui est marqué ici dans ce Rashi? Qu'est-ce qui est marqué ici? Et si je sais maintenant que le bâton, c'est pas seulement un bâton de malheur, est-ce que j'en saurai plus? Si je sais que le bâton avec lequel on a pu frapper l'Égypte entière et Pharaon, ce même bâton peut produire de l'eau dans le désert pour les bénis d'Israël, est-ce que j'en sais plus? La réponse, elle est très simple. Tu n'en sais pas plus. Mais au moins, tu es moins bête que de croire qu'un bâton amène le malheur. C'est ce que la Torah voulait te dire. Ne crois pas qu'il apporte le bonheur, puisqu'il apporte le malheur aussi. On veut juste que tu ne crois pas, Edirachi, qu'un bâton et un malheur, c'est un rapport quelconque. L'homme a tendance à chaque chose à laquelle il participe dans ce monde-ci, il a une tendance à s'accrocher, à en sortir une théorie, à faire sien l'événement. Et les Bnei Israël ont relié le bâton au malheur. Alors est venu l'ordre divin. On va relier le bâton au bonheur. Tu sais, alors c'est un bâton de bonheur, de malheur. Tu veux l'appeler ambivalent? La seule leçon, ne t'attache à aucune théorie du bâton. Parce que de même que ça peut produire cet événement, ça produira l'autre événement. Et Rashi continue. Il dit, Vikita, Batsour, il ne fallait pas prendre le bâton et frapper le rocher. Il fallait frapper le rocher jusqu'à ce que le rocher se fende. Et Rashi dit, ce bâton, c'était quelque chose d'une matière qui peut casser la roche. Cette matière s'appelle Sanprinon. Et de nouveau, on a la Kouchia. Qu'est-ce que ça peut me faire? Et en quoi c'est important qu'un bâton soit plus fort que la pierre? Et la deuxième question encore plus forte. Et quel est le rapport avec l'eau? De la roche est sortie de l'eau. Mais en quoi le bâton qui est plus fort que la pierre, ça fait sortir de l'eau? Le Pshat dans Rashi comprend une chose. Le bâton est plus fort que la roche, t'as raison. Même la roche, on peut la casser. Et tout ça n'a aucun rapport avec l'eau. Tu as de l'eau parce que tu en as besoin. La Torah vient ici nous donner une leçon incroyable. Ne lance pas de théorie. Ne t'accroche pas aux choses. On te dit, voilà, on va frapper le rocher. Et une fois qu'on t'a fait comprendre que la roche peut être frappée par plus dur qu'elle, et tu vas commencer à étudier en quoi plus dur qu'elle, et tu vas comprendre. Mais j'ai rien compris. Parce que quel est le rapport avec l'eau? Et la réponse, elle est, pourquoi pas l'eau? Voilà, c'est là la réponse. L'eau a besoin de la roche? La roche a besoin du bâton? Mets-toi dans ta tête, et pourquoi pas l'eau? La tendance de l'homme, c'est de s'accrocher à une signification de la vie qui lui permet des repères. Vient la Torah, elle nous dit, voilà, ces repères sont tous faux. Le bâton n'amène pas le malheur. Et s'il amène le malheur, il amène le bonheur, donc il n'amène rien du tout de spécial. Donc tu ne peux pas t'en servir. Ce n'est pas intéressant. On ne se sert pas des choses. Le bâton est plus fort que le rocher. N'essaye surtout pas de trouver un bâton plus fort que le rocher. N'essaye pas d'étudier cette matière. Samprinon. Ne deviens pas un spécialiste de Samprinon. Parce qu'après, vainement, tu chercheras de l'eau. Parce que ça n'a aucun rapport avec l'eau. C'est difficile de recevoir des leçons comme ça. Et de vivre comme nous, nous vivons. Puisque toute notre vie, c'est de savoir si c'est le malheur, le bonheur, le Samprinon, combien ça coûte. Et si ça peut rapporter. Et à la fin, quand tu auras bien tout compris, on te dira, et l'eau, comment est venue l'eau? Il n'y a aucune raison que l'on vienne. Essayez de frapper sur un rocher avec un bâton plus dur que le rocher. Essayez même avec un plus mou. Je vous garantis que vous n'aurez pas d'eau. Pourquoi l'homme se raccroche à ces choses-là? Et on va essayer de comprendre. Shlomo HaMelech dans Michelet dit « Ve'et yesharim sodo » Si tu veux savoir où se trouvent les secrets, où se trouvent les choses cachées qui fonctionnent, où se trouve ce qui fait marcher les choses, le sod, « Et haïsharim » Tu vas chercher les gens droits. Dit le grand devina « Et haïsharim sodo » Les gens droits, c'est qui? Il dit les gens droits « Bale chokhma ou bale tachboulot » Shehashem ou Avan Meod. Ce sont les gens qui sont sages, Baal et Tachboulot, qui ont l'esprit aiguisé, qui sont malins. C'est ceux-là qu'Akadosh Baruch Hu préfère. Sodo, tu cherches le secret, il est là-bas. Alors on ne comprend pas. Il suffit d'être malin. Il suffit d'être chacham. Tout le monde a compris que non. Et haïsharim sodo, ce qui veut dire le Gaon, c'est qu'il y a des gens qui sont libres pour la chorma. Ils ont droit, ils sont libres. Ils peuvent penser, ils peuvent avoir des tarboulottes. Ce n'est pas des gens qui sont toujours obligés de s'attacher et d'être livrés à ce que la vie nous montre. Tu as vu un bâton? Tu parles de malheur, tu parles de malheur. Tu n'es pas yachar, tu n'es pas droit. Selon tu devais, et tu devais savoir que tu devais comprendre, c'est que le bâton, c'était ni le bonheur ni le malheur. Le bâton, c'est rien du tout. La Torah, elle est venue, elle te l'a dit, elle t'a expliqué. Tu veux être yachar ? Alors tu as compris que si le bâton est plus fort que le rocher, ça n'a rien à voir avec le mystère de l'eau. Chaque fois que tu vas trouver quelque chose qui marche physiquement dans ta vie, dans ta nature, c'est que ça ne marche pas. C'est que ça n'a aucune importance, puisqu'on devrait pouvoir vivre sans, non ? On a besoin pour un malheur d'avoir un bâton. Tout le monde comprend que non. Un homme ne doit pas s'attacher, ne doit pas être victime de sa vie. C'est ce qu'on appelle le yachar, celui qui est droit. Celui qui n'est pas droit, il dit « ça marche, je fais ». Ça rapporte, j'y vais. C'est le non-yachar. Le yachar, c'est celui qui dit « qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je dois ? Qu'est-ce qu'il faut ?» Il est baal tarboulot. Il va nager dans la nature. Il va nager dans la société. Il va essayer de ne pas être victime de la vie triviale de chacun. Il est yachar. Il est resté droit. Quand tu lui demandes pourquoi il fait ça, il te dira pas parce que je n'ai pas le choix. Quand tu demandes pourquoi il fait autrement, il te dira pas parce que j'ai faim. Il te dira pas parce que j'ai besoin. Il te dira parce que je veux. L'homme yachar, il est baltar boulot, ça vient de lui. C'est lui qui détermine sa vie, il s'est jamais fait avoir. On n'a jamais pu lui expliquer que ce qui valait la peine, ça valait la peine pour lui. C'est lui qui a choisi, il est droit. L'autre est tordu, il essaye de s'adapter à un monde qui est tellement étranger à lui qu'il essaie d'en trouver des lois, des principes, des concepts. Et maladroitement, il y suit, alors il croit que le bâton fait le malheur. Après, il croit que le bâton fait le bonheur. Après, il croit qu'avec un bâton très fort, on peut frapper un rocher. Jusqu'à ce qu'il se pose la question, et l'eau ? Quel rapport ? Quel rapport avec le rocher ? Quel rapport avec le bâton ? Tu as compris ? On voulait que tu arrives à ce raisonnement, et l'eau ? C'est ça le yachar. Ça qui dit le Gaon de Vilna, Sodo, tu veux savoir le secret ? Shlomo HaMelech dans Michée dit, la Yesharim. La Yesharim Sodo. Ne prends pas les choses avec un a priori. Ça marche. Les autres vont croire qu'ils vont faire que. Tout ça, c'est faux. Toi, tu dois faire ce que tu penses être fait. Reste droit. C'est comme ça, on peut poursuivre. Vous savez que Mirtam Eliyahu, il définit, et c'est d'une grande profondeur, Shlosha Esterim. Vanochi Aster Astiret Panay, Akalosh Baruch Hu dit, moi je voilerai ma face. Le divin, ça n'est pas courant. Si on te montre le divin à travers une loupe, c'est que ça n'est pas. C'est pas possible. Shlosha Esterim, il dit. En vérité, il en dit quatre, mais la quatrième, c'est, ça fait partie du troisième. Alors essayez de bien faire attention. Premier Esther, il dit, c'est la Anochiut. L'homme a été créé, il doit être un individu. Pour qu'il ait une perception, il doit avoir le sens d'être séparé du divin, séparé du spirituel, séparé du principal. Tu ne peux observer et te mettre en cause et te mettre à fonctionner que si tu as conscience de ton individualité. C'est le premier Esther. Ce que les psychologues appellent la conscience de soi. Celui qui ne comprend pas qu'il est à part, il croit qu'il est mélangé avec les autres, ou il est mélangé avec la vie ou avec la nature, il ne peut pas fonctionner. On va te cacher la vérité derrière le fait que tu es obligé de dire « je », d'exister en tant qu'individu. Il faut savoir que ça, ça n'est pas seulement dans ce que nous appelons le monde de la Asiya, les choses courantes. Il dit même dans le monde de la Bria, même dans la création à son extrême limite supérieure, la première création la plus haute, la création la plus enfoncée dans le divin. Et il y est même dans l'Olam Haba, et ce sera toujours comme ça. Il n'existe pas de création sans individu. D'abord, tu te perçois, et à travers ce que tu es, tu perçois le divin, tu perçois le spirituel. C'est ce qu'on appelle le premier Esther. Il dit ça, c'est le Esther, c'est quelque chose qui cache la vérité. Et un homme doit savoir que ça n'est qu'un Esther. C'est juste une façon de cacher, pour que tu puisses exister. La deuxième chose, il dit, c'est la liberté. Esther Abrira. On te donne le choix. Tu crois que tu as le choix. Tu crois qu'il y a vraiment de solutions. Et tu crois vraiment que ça dépend de toi. C'est un Esther. C'est un mystère qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ta main, qui est une illusion, qui est une création, qui est là juste pour que tu puisses de nouveau te développer plus. Parce que si tu as conscience d'être un individu et que tu ne peux pas aller dans un sens ou dans l'autre, c'est que c'est vain. Ça s'appelle le deuxième Esther. Vanochi Aster Astir. Tu veux chercher le divin, il est caché là derrière. Juste rends-toi compte que ça cache. Tu crois que tu as deux chemins. Bien sûr qu'il n'y a pas de chemin. Il y en a un seul. L'autre, il est vain, il mène à rien. Il n'existe pas, c'est une illusion. Il dit le troisième Esther, c'est le Teva, c'est la nature. Tu crois que ça fonctionne tout seul. Tu crois que si tu as attrapé le truc, tu vas en profiter. C'est un Esther. Il n'y a pas de truc. Tu ne profites que de toi, de ce que tu es. C'est pas la peine de te mettre en représentation. C'est pas la peine de penser qu'en faisant semblant que rien. Tous les moyens qu'on peut te donner, tu n'arriveras à rien. Tu resteras le même petit. Et pourquoi un homme s'attache à ses mystères? Le Esther, ça se traduit par mystère, pas juste pour faire une rime. Le Esther se traduit par mystère pour veut dire que c'est quelque chose de mystérieux, de caché, mais que tu peux dévoiler. Pourquoi l'homme s'attache à tout ça? Il brandit son individu. Parle-moi autrement. Fais attention à moi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est un ustensile qu'on t'a donné, ça n'a aucune valeur, ça ne veut rien dire. Tu n'es séparé de la vérité ou du divin que par ton illusion. C'est un Esther. C'est un mystère, c'est le Sod. Pourquoi ça marche comme ça? Parce qu'un homme n'a rien s'il surmonte pas quelque chose. Et la première approche de ce que nous appelons la Rouhaniyut ou la Kedusha ou le divin ou la spiritualité, c'est d'être différent. C'est de changer quelque chose. Seulement l'homme a peur. Il a peur de ça. Il s'est habitué au mystère. Il vit bien dans l'Esther. Alors, Shlosha Esterim même, il y a trois Esterim et ces trois Esterim, c'est sa vie, ça le rassure. Il a tout construit là-dessus. Jusqu'au jour où il se rend compte, ça c'est le voile qui cache. Mais ça cachait quoi? Eh bien, il ne sait pas. Ça t'a caché toi, alors que c'était là pour t'aider. Pourquoi as-tu besoin de relier le bâton au malheur? Pourquoi as-tu besoin de trouver une clé au malheur? La clé au malheur, elle est chez toi, elle n'est pas dehors. Ce qui t'arrive, c'est toi. Tu crois que tu vas avoir des clés? Tu crois que ça va changer quelque chose? Tu as trouvé un truc, tu sais, le bâton du bonheur? Et on va te changer en bâton du malheur? Et tu crois vraiment que c'est comme ça? Viens, mon cher Rabbeinu, il prend son bâton, il frappe le rocher, il casse le rocher. Et tout ça, pourquoi? pour que tu aies à boire. Explique-moi comment ça a marché. Un homme doit comprendre. Combien de fois dans sa vie il a pris un bâton ? Il a essayé de remarquer et de faire que ce bâton le soit pour le bonheur et pour le malheur. Et combien de fois il a essayé de casser ? Et finalement, c'était l'eau qui n'avait rien à voir, ni avec le bâton, ni le bonheur, ni le malheur, ni le rocher. Un rocher ne produit pas d'eau à bouteille. C'est un bâton qui casse le rocher qui produit de l'eau. Eh bien, essaye de trouver, ça n'existe pas. Ça n'est pas intéressant. On ne peut pas se passer sa vie là-dessus. Le sode. Le sode, il est chez les Yesharim. Il est chez les gens droits. C'est-à-dire, ça commence par moi, ça termine par moi. Je ne suis à la merci de rien. Je ne fais partie de rien. Et si jamais je le pense, ça n'est qu'une petite technique qui doit rester au niveau du Esther. Serre-toi-en. Le bon Dieu s'est caché. Profite qu'il s'est caché. Mais ne sois pas dupe. Si ce n'était pas caché, tu n'existerais pas. Si l'homme n'était pas séparé, n'avait pas une individualité petite et mesquine, bien sûr qu'il ne pourrait pas avoir d'avodat Hashem, il ne pourrait pas faire face au ribono shel olam à Dieu. Bien sûr que non. Mais c'est qu'un outil. Serre-toi-en, c'est du Esther. C'est du brouillard. Profite du brouillard. Mais ne vis pas dans le brouillard. L'Ichora, c'est ça le pshat. Dans la Gemara d'Antanit, elle dit « Vayechidi mitanim ». Yachid, c'est les uniques, les individus, les seuls, les isolés. Les yachidim, et la Gemara dit « Man yachidim », c'est qui le yachidim ? Talmid et Chachamim. Celui qui essaye de savoir la signification des choses, lui il est yachid. Tu ne pourras jamais trouver de loi, tu ne pourras jamais l'englober dans quelque chose, tu ne pourras jamais le définir, parce que les choses s'adressent à lui uniquement, il s'appelle yachid. Talmid et Chachamim doivent être yachidim. Ils doivent être seuls, isolés, incompréhensibles. C'est ça le sod des Yesharim. Et si la Torah dévoile quelque chose, ce sera toujours de nouveau sous forme de système. Avec le Esther, tu devras dévoiler, tu devras recommencer. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge. Ils n'ont pas eu d'eau, on leur a donné de l'eau. Mais ils n'ont pas eu à manger. Et on leur a envoyé la manne. La manne, c'est un pain, pas entièrement matériel, qu'on ne pouvait pas définir, c'est pour ça qu'il s'appelle manne. Parce que tout celui qui voyait disait, manou, c'est quoi ? C'est quelque chose qui n'a pas son équivalent dans la nature. Dit le Ramban, je vais t'expliquer ce que c'est la manne. La manne, c'est Or Elyon. C'est la lumière céleste. Et là, Shenit Gachem, seulement ça a pris une forme physique. De quoi te nourris-tu ? De la volonté divine, de la lumière céleste. Quelquefois, ça prend une forme tellement physique que tu ne vois pas que c'est le Esther, il n'y a pas de mystère. Avala Yesharim, ils étaient encore après la sortie d'Égypte, ils étaient encore Yesharim, droit. Alors le bon Dieu leur a laissé goûter la manne. Ça veut dire, on t'a enlevé un peu de ce voile du Esther, tu as vu ? C'est le Aurélion, c'est la lumière d'en haut. Tu ne peux te nourrir que du bon Dieu. Ah, comment est-ce qu'on va se nourrir ? Alors on te montre un peu de Gashmiot, Nid Gashem. Ça devient du Gashem. Mais ça reste du Aurélion, c'est pour ça que chacun regarde et demande, « Man, c'est quoi ce pain ?» On n'a jamais plus revu l'équivalent. On ne sait pas comment c'était. On sait juste que c'est quelque chose qui était entre le haut et le bas. Là où le Esther, le mystère est un peu moins fort. Lorsque le mystère devient moins fort, on a une perception qui est plus grande. C'est ça le sod. Le secret, c'est la Isharim. Ne sois pas un adepte des systèmes. Ne sois pas un adepte des découvertes que tu es devenu un grand racham puisque tu sais que le bâton amène le malheur. T'as découvert ça. Tu es la victime du Esther, le bâton n'amène pas le malheur. De même que le bâton n'amène pas le bonheur. Qu'est-ce qui est le bonheur et le malheur? C'est toi. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est le Or Elyon et la Génit Gachem, c'est ce qu'on appelle l'Aman. Ça que Rabbeinu vient dans le Shar Etshuva, il dit une chose extraordinaire. Ce que Shlomo HaMelech a dit, Bechesed ve'emet yechou paravon. Toute faute, tout se balaye. Les choses les plus graves au monde, elles se balayent d'une seule façon. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle aventure, pas besoin de punition, pas besoin de rendre des comptes. Tu peux tout balayer. Bechesed ve'emet yechou paravon. Il dit Rabbeinu Yonah, Chesed, tu en as trop. Évidemment que ce que tu as, ça n'a pas de rapport avec toi. Pourquoi tu as besoin de ce que tu as? Le matin, quand tu te lèves, essaie de savoir comment tu peux t'en débarrasser vers les autres. C'est à toi d'aller. Ne prends pas un système et prends du système. Toi, crée ton système. Il n'existe pas quelqu'un qui se lève le matin et qui est en train de tuer, de gâcher la vie de l'autre. Et plus il y a de zéro, et plus il y a de dizaines, et plus de centaines, plus c'est un retard. Pourquoi? Vous savez ce qu'il y a à faire avec tout ça? Ça s'appelle Chesed. Chesed, c'est pas avoir pitié de l'autre. C'est de se lever le matin et de se demander, qu'est-ce que j'ai que je peux donner à l'autre? Emet, c'est la même chose. Emet, c'est pas nager entre les systèmes chassidiques, machin, et trucs, faire tous les minagim du monde. C'est pas le Emet, ça. Emet, c'est choisir qui on est et comment on doit faire. Chesed ve emet yechou paravon. Ce sont les choses les plus difficiles parce que ça vient de l'homme. Il n'y a rien à copier, il n'y a rien à imiter, il n'y a rien de minag, il n'y a rien du rav, il n'y a rien de la culture, il n'y a rien de l'origine. Il faut bien comprendre ça. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué Hachem Oz le Amo Yiten. Le bon Dieu nous a donné une force. C'est quoi cette force? Oz. En Oz et la Torah. Shelone marba et la chesed ve'emet. Nous avons une force, c'est la Torah, et la Torah elle ne se définit et elle n'a d'adjectif que ou chesed ou emet. La Torah c'est une manière de s'avancer. C'est pas une manière de se protéger les coups de la vie du bon Dieu. C'est pas une manière de vivre, de se protéger les coups du sort. C'est pas une étude des disciplines pour pouvoir passer la vie le plus confortablement possible. C'est une manière d'agir. C'est ça le yachar, ba'al et tachboulot. D'abord tu conçois tout seul et ensuite tu exécutes. Alors que malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? On voit comment naviguer et on navigue. Et là où ça vaut mieux la peine, on se croit les plus malins. Et on est les victimes de quoi? Du bâton. Quelquefois on est allé vers le bonheur, quelquefois vers le malheur. Et puis tout d'un coup on dit, et l'eau? Mais d'où est venue l'eau? Ah, c'est trop tard, bataille. C'est trop tard. Là, déjà, on n'a plus les moyens. Là, déjà, on n'a plus l'énergie. Là, déjà, on n'a plus l'ose. Nous avons essayé, nous essayons toujours de créer une société juste, de vivre selon des valeurs. Mais à la place d'être nous les agissants, on essaye de faire partie d'un monde. Un monde où le bâton amène le bonheur, où le bâton amène le malheur. Ou si tu n'as pas fait ça, tu reçois ça. Ou si tu as dépassé la vitesse, tu te fais arrêter. C'est pas ça, la bataille. On est à côté, totalement à côté. Pas de rapport. Et ça n'a pas de rapport avec la quantité de mitzvot. Malheureusement, même pas avec la qualité des mitzvot. Ça a rapport avec l'attitude. Je ne suis obligé de rien. Le matériel ne m'oblige en rien. Ça veut dire que le matin, quand on se lève, on doit se dire, et l'eau, qu'est-ce qui va se passer avec l'eau ? La seule façon de produire de l'eau, c'est de trouver un bâton plus fort qu'un rocher. Et l'eau. La Torah vient te dire, voilà, demande et l'eau, c'est ça le problème. Où est l'eau ? Bechesed ve'emet yochou paravon. Et la seule solution pour nous, Rabotai, elle est de ne pas avoir peur, peur de la vie, peur du patron, peur de l'autre. On a peur du Esther, on est enfermé. On ne peut pas agir, on est seul. Sakel Mirtam Yahou traduit Esther par solitude. La solitude de celui qui a le choix. Une solitude extraordinaire. Il est tout seul devant le choix. Tout seul à rendre compte. Victime de cette solitude, il copie, il fait de l'à peu près. Il y a une solitude encore plus extraordinaire. C'est la solitude du matériel. Si je ne fais pas ça, je ne m'en sortirai pas. Personne ne va venir à mon secours. Personne ne va venir et me donner ce dont j'ai besoin. Alors j'ai peur et je me rattache à ça. Et je suis en plein dans le mystère, je n'ai rien compris. Comment sortir de ça une seule façon ? Le matin, quand tu te lèves, tu demandes « Et l'eau ? Comment est venue l'eau ?» La roche ne produit pas d'eau, le bâton ne produit pas d'eau. Et si toi, tu sais comment faire de l'eau, c'est qu'elle n'est pas à toi. C'est qu'elle n'a rien à voir avec toi. C'est que tu es à côté totalement. Parce que l'eau, on ne peut pas la produire. On t'a donné un bâton, on t'a dit « Frappe, vas-y, fais tout ce que tu veux. » Et à la fin, tu vas demander « Et l'eau ?» Ça, c'est le yachar, ça, c'est le sod. Alors, il demande le Maharal. Mais qui va m'apprendre? Comment je vais faire? Comment je vais savoir? Et il dit, ben, c'est pas grave, tu demandes à David Ameler, c'est un verset dans Télim, Yadrech, Anovim, Darko. Yadrech, le bon Dieu va te donner son chemin, Anovim. Sois modeste. Vilamed, Anovim Darko. Il va t'apprendre le chemin parce que tu es modeste. Dis le moral, c'est quoi modeste? Et il dit une chose, il va falloir qu'il faut se rappeler à Botaï. Ha Anav lo yugdar. Le Anav, le modeste, il ne peut pas le définir. Il ne met pas de casquette. Il ne cherche pas son rang. Il ne cherche pas sa place. Il ne veut pas être le premier. Il n'a aucune place. Il est Anav. Eino Mugdar. Le Anav, on ne le reconnaît pas. Une fois on le voit parmi les grands, l'homme parmi les petits. Il n'a pas de place. Il ne s'est pas rattaché au costume. Il ne s'est pas rattaché à la fonction. Anav, ça veut dire il est bien partout parce qu'il ne demande rien. C'est ça qui dit le Maharal. Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il est Anav. C'est-à-dire le bon Dieu, il est Anav. Le bon Dieu, c'est lui qui a tout produit. Et si tu t'adresses à lui, si tu es pauvre, et daké ou cheval roi, tu es le dernier des derniers. Il est là, il écoute. Comment un ministre peut écouter un pauvre ? Comment tu as accès au dernier des derniers ? Le Anav, il n'a pas besoin de casquette. C'est celui que tu peux employer, il n'a pas besoin de bureau. Et quand tu lui donnes un bureau, il n'a pas besoin de secrétaire. Et quand tu lui donnes un secrétaire, il n'a pas besoin de ceci, pas besoin de cela. Il est lui-même, il existe, il est Anav. Il dit le Maharal, le Anav, Sache, tous les jours, tu vas essayer de savoir est-ce que tu es Mugdar. Est-ce qu'on peut te définir? Est-ce qu'on peut te donner une casquette? Est-ce qu'on peut te donner un uniforme? Est-ce qu'on peut te donner un genre? Tu n'as pas de genre, tu n'as pas d'uniforme, tu n'as rien. Il dit celui-ci, le bon Dieu. Il a compris que dans le Esther, il brille celui-là. Le Esther, c'est plus rien, il se rattache à rien, il est anav. Il n'a plus peur de rien. Vous savez qu'il y a un grand auteur. Il a dit une toute petite partie du Maharal. Parce que le Maharal, il dit que il n'y a pas de plus grand courage que le Hanav. Si tu n'es pas un courageux, tu ne peux pas être Hanav. Tu ne peux pas être modeste. Il faut un courage extraordinaire. L'artiste travaille sans filet. Il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas tout le brio et le travail et les fonctions de la société. Tu ne peux pas dire que t'es le père, t'es le machin, t'es le l'omugdar. Tu es ce que tu es. Yadrer anovim baderer. Le bon Dieu, c'est à ça qu'il s'occupe. Il prend les modestes et il les met sur le chemin. C'est ça le sod des Yesharim. Pour être yachar, pour être droit, il faut être anav. Et malheureusement, toute notre société, c'est la société de l'image. Et personne n'a le courage d'être anav. Personne n'a le courage d'être modeste. Parce que si je suis modeste, je vais me faire enfoncer. Et j'ai tellement peur de me faire enfoncer que je rencontre même plus les gens. Je traite tout devant un écran. On a renoncé, ça. Il n'y a plus de hanav. On ne veut même pas les voir. Et quand on les voit, il faut représenter. Il faut avoir une casquette. Il faut avoir un chapeau. Il faut avoir une barbe quelquefois. Le hanav, tu le rencontres là où tu ne t'attends pas. Là où la barbe ne sert à rien. C'est un grand courage. De dire que il avait le courage des modestes. C'est une petite paraphrase de ce qu'il veut dire le Maharal. Le Maharal, il va beaucoup plus loin. Il dit « Va'anav lo yugdar ». Tu ne pourras jamais le définir. Tu ne pourras jamais lui donner un statut. Tu ne pourras même pas lui donner un titre. Parce qu'il est anav. Et puisqu'il est anav, il est lui-même. Et celui-là, il n'a pas besoin de bureau, pas besoin de titre. Il n'a pas besoin de maison, pas besoin de pavillon, pas besoin d'immobilier. Il n'a pas besoin de construire, pas la peine de se bagarrer pour l'argent. Il n'a besoin de rien, parce qu'il est yachar, il fait ses tarboulottes, ça vient de lui. Il construit sa vie. Il est victime de rien du tout. C'est ça ce qu'a dit Shlomo HaMelech, Asa Elokim et Adam Yachar. Ce que quoi ? Vem bikshu cheshbonot rabim. Toi, ce que tu veux, c'est adapter à la société. Pas longtemps quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, quoi, vous n'avez pas Internet? Vous ne faites pas partie du siècle. Vous ne pouvez pas fonctionner. Tu as compris? C'est le Esther Panim, Rabotai. Tu n'as pas ça, t'es fichu. Et l'eau? Il n'y a pas d'eau? D'où elle vient l'eau? Ah, on ne sait pas. Alors je te construis un système avec un roche, avec un bâton. Et le bâton, je te définis, Mrachi. Il me dit, il a un nom spécial. Et tu vas mettre toute ta vie à étudier le nom spécial et à taper sur les petites touches de ce spécial. Et à la fin, tu vas demander, hello. En haute taille, la vie, c'est de pouvoir savoir. Et c'est ça ce qui est important. Qu'on n'est pas séparé du divin. On n'est pas séparé du spirituel. On n'est séparé de rien du tout. Ce sont des Esther Panim, c'est de l'illusion. C'est simplement pour nous donner une façon de nous déplacer. Mais au fond, il n'y a rien de vrai. Vanoché Aster, tu peux cacher le bon Dieu que tu veux, autant que tu veux, il est toujours là. On n'est obligé de rien. Et ça marchera aussi sans ça. La preuve, même quand tu découvres la plus grande découverte, un bâton qui frappe un rocher et qui casse un rocher, c'est quand même pas mal de le retrouver. Et puis tu tapes dedans, et qu'est-ce qui sort de l'eau ? Explique-moi comment ça marche. Ah, je sais pas. T'as vu ? T'as vu le temps que t'as perdu et le bâton et le rocher pour de l'eau ? Et comment un rocher produit de l'eau ? Mais ça produit pas d'eau, rocher ! C'est le bon Dieu qui t'a donné de l'eau ! Ah, je crois que c'était Internet. Sans ça, ça marche pas. Sans ça, on peut pas s'en sortir. On n'est pas obligé de copier les autres parce qu'on est devenus tous des tout petits adjudants, des tout petits chefs. Sans bureau, on fonctionne pas. Sans secrétaire, on fonctionne pas. Sans salaire, c'est sûr qu'on fonctionne pas. Mais t'as pas besoin de tout ça. C'est le Esther. Ça, c'est un mystère. C'est derrière ça que la vérité, que la spiritualité, que le divin se cache. Je ne veux pas refaire le chiour du Nefesh HaChaim. Mais en vérité, c'est ça la création. C'est la création du vide. Il faut bien savoir que le Talmid Chacham, c'est un Yachid. On doit être des Talmid Chachamim, c'est-à-dire que nos discussions, nos préoccupations, c'est plus de savoir qu'est-ce que c'est qu'un Sfek Sfeka. Est-ce que ça existe une Chazaka d'Ashta ? Que de savoir si la secrétaire est arrivée, si le bureau fonctionne, et si le pavillon se paye. Comment est-ce qu'on va remettre les choses en ordre ? De Chesed ve'emet, il n'y a que deux solutions. Tu te lèves le matin, tu demandes ce que j'ai qui est pour les autres, que je suis en train d'abîmer, à qui je peux donner ? Je suis en train de te demander, quelle est ma part de la compréhension de ce qui se passe dans le monde ? Pourquoi suis-je là ? Pourquoi cette époque ? Pourquoi comme ci ? Pourquoi comme ça ? Alors tu vas ouvrir le livre et tu vas apprendre. Et on va parler d'une chose qui ne te concerne pas. Tu dis, qu'est-ce que ça peut me faire si une chazaka d'Ashta est mieux qu'une chazaka de Meïkara ? Elle dit, c'est de l'hébreu ça, c'est du chinois. Mais ça, c'est la réponse. Et l'eau, elle est là, l'eau à bouteille. Elle est dans cette corporation du Emet. Quelle est ma part de Emet ? Elle n'est pas d'être un être bedi-eved, c'est-à-dire un être qui n'a pas le choix. Je suis obligé de faire ça, je suis obligé de faire ça. Ça, j'ai pas le choix, ça, j'ai pas le choix. À la fin, tu as tellement plus de choix que tu es dans le Esther total. Tu es coulé au mystère. Un homme peut tout écarter. Il suffit de se prendre en main et de n'avoir peur de rien. La nature, elle est peut-être là pour te faire peur, mais n'ayez pas peur. Le Ribbono Shel Olam, il est là, l'eau, elle est là. Et tu recevras de l'eau parce qu'il va te donner de l'eau. Parce que le rocher ne peut pas produire de l'eau et l'autre ne peut pas produire. Tu recevras de l'eau parce que le bon Dieu te donne de l'eau. Le rocher ne peut pas le faire. Le bâton qui frappe le rocher ne peut pas le faire. Et vous faites toute l'histoire de Khad Gadia, vous allez comprendre au fond que tout ça, ça n'est que l'un sur l'autre et l'autre sur l'un, l'une force sur l'autre. Et toute la vie, on joue, on joue, on joue. Mais le fond, c'est quoi ? Et l'eau ? Lorsqu'on enseigne la Torah, lorsqu'on essaie de vivre selon un ordre qui ressemble à quelque chose de la Torah, on doit être qu'un Ben Torah, c'est pas une casquette Ben Torah. Même ça, on commence à le définir. Même ça, on va te demander de quelle obédience et quel machin et quel truc. Tout dénaturé. Comme le Breton, il parle toujours de sa grand-mère, parce qu'il est zéro. D'où tu viens ? Quoi, ça m'intéresse d'où tu viens ? Tu te définis d'où tu viens ? Le pauvre type qui se raccroche à une histoire, même plus une réalité, une histoire. On doit fonctionner autrement à Bretagne. C'est pour ça qu'on essaye de se mettre à étudier comme il faut. De voir les choses d'une façon vraie, d'une façon indépendante. De pouvoir être Anav. Anav, c'est celui qui essaye de ne pas avoir de casquette. Qui a le courage d'être ce qu'il est. Il n'a pas peur de la vie, peur de l'autre, peur de l'événement, peur de celui-là, peur de celui-là. Peur du patron, peur de... Il a peur de rien. Il est un Yachid. Yechidim, ma yechidim, talmidei chachomim. L'autre ne peut pas te comprendre. Puisque tu es dans le sod, tu es dans le secret. Il n'a pas besoin de te comprendre. Il doit juste voir que tu fonctionnes. Il doit juste voir que ça marche. Et il n'y a que l'échange intellectuel de connaissances qui est possible. Le reste, c'est maïchidim. Et même cet échange intellectuel, il doit se raréfier au cours de la vie. Lorsque on commence à connaître, lorsqu'on progresse, on ne doit plus pouvoir parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Man yechidim talmidei chachamim. Il faut bien le savoir. C'est pour ça que, sans vouloir donner de leçons à personne, on doit juste essayer d'être authentique, d'être ose, d'avoir nous la force de fonctionner par nous-mêmes, pas être des victimes de ce qu'on a appelé les shlosha esterim. Ce sont des fonctions, on va les utiliser, mais pas plus. C'est pour ça que d'année en année, on essaye. Et Baruch Hashem, à la yeshiva, nous avons eu droit cette année à un très bon limoud, de très bonne qualité, qui n'a pas besoin. Et nous voudrions que l'on soit même de l'école, bien que c'est plus difficile, de ne pas avoir besoin de tous les stérimes, de toute la magnificence de la société, de tous les bonheurs de la création qui sont à notre disposition. Seulement que nous puissions être nous-mêmes. C'est une de ces raisons qui ont fait que cette année, nous avons décidé, puisque c'est une habitude chez nous, de ne jamais faire d'appel pour la yeshiva le soir du gala. Et Baruch Hashem, on ne peut que remercier tous ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas, du fait que malgré la crise, les résultats de cette année ont été aussi bons, si ce n'est pas mieux, ou si ce n'est mieux, on va savoir exactement plus tard, que l'année dernière. Et nous avons décidé que puisque nous ne faisons pas un appel, pour nous, peut-être qu'on peut en faire pour cette petite institution. Cette petite institution, elle veut se développer et elle va construire. Elle a eu le permis de construire qui a été validé par la municipalité de Yerushalayim et le permis de construire. Et là, efficace, droit de construire dans un quartier où personne ne les voulait. Pourquoi ? C'est difficile de côtoyer des handicapés. C'est difficile d'avoir affaire avec ça. Eh bien, ils ont eu l'autorisation de construire, finalement, après avoir été stoppés pendant des mois et des mois. Et on va les aider. Ce garçon, vous avez vu ? Il est venu avec une demande simple. Vous pouvez voir sur l'écran, ils ont besoin de jouer. On appelle ça matériel pédagogique ou matériel spécial pour les handicapés. Ils ont besoin de beaucoup, mais ils n'ont pas besoin de beaucoup. La moyenne de ce qu'ils ont besoin d'acheter coûte 15 euros. Alors on s'est dit ce soir, il y a des enveloppes sur les tables, puisque la yeshiva est pourvue, puisque grâce à tous, on a fait l'effort du Emet, de la Torah, on va essayer de faire un petit effort, 15 euros à Botay. C'est pas très cher. De mettre dans une enveloppe 15 euros au nom de cette institution qui s'appelle Shalva et qu'ils puissent avoir beaucoup de matériel pour des centaines d'enfants et qu'à part l'aide qu'on leur donnera de la part de la yeshiva à récupérer sur l'argent des billets à la place des cadeaux, on puisse leur donner une petite satisfaction de partir avec un petit peu de matériel. Sur vos tables, vous avez des enveloppes. Sur ces enveloppes, vous pouvez cocher 15 euros. Il est possible qu'on trouve du matériel moins cher, mais ils n'ont pas trouvé. En tout cas, ce n'est pas grand-chose. Mais ça permet de faire quelque chose de soi-même, comme on veut. Voilà. C'est pas beaucoup, mais je l'ai fait. Et je ne suis pas venu pour ça, et je l'ai fait. Chesed ve'emet sabaleitou. Yochou paravon, même le plus chamour. Même le chilou l'Hachem. Pourquoi sabaleitou ? Parce que tout vient de l'extérieur. Et ça, ça vient de toi. Lorsque tu fais un effort et tu te dis, qu'est-ce que j'ai chez moi que je peux produire? Qu'est-ce que j'ai chez moi comme intelligence où je peux comprendre? Ça s'appelle le chesed, le emet. Il n'y a pas d'autre définition pour la Torah. Torah chesed, Torah temet. C'est ce qui dit le Rambam, Hashem oz la moïten en oz la Torah, notre force, notre indépendance. C'est de pouvoir faire et ce chesed et ce emet. Et comme vous l'avez compris, et vous avez tenu à vous associer à nous ce soir, je vous en remercie. Que ce soit avec une grande hatzlacha, on va venir ramasser les enveloppes tout de suite avant la tombola. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on se retrouve tous en bonne santé, tous en bonne condition, et qu'on puisse continuer à participer aux efforts de tous. Bimera bi'amenu amen.